Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren.
Le pape François a appelé hier Donald Trump à œuvrer pour la paix à l'issue d'un face-à-face au Vatican où les deux dirigeants, que tout ou presque séparent, étaient tout sourire, au moins devant les caméras. À l'issue de leur entretien d'une demi-heure dans la bibliothèque des appartements pontificaux, le président milliardaire et le pape des pauvres sont apparus relativement détendus devant la presse du monde entier qui étudiait le moindre de leurs battements de style. « Merci, merci, je n'oublierai pas ce que vous avez dit », a lancé Donald Trump en prenant congé du pape François, avant de s'entretenir plus longuement avec le numéro 2 du Vatican. Et plus tard, en marge d'une rencontre avec le gouvernement italien, Donald Trump s'est exclamé en parlant du pape « C'est vraiment quelqu'un ». Mais bon, est-ce qu'on le connaît ce pape François ? Que veut donc justement ce pape pour l'Église d'aujourd'hui et de demain ? Qui est-il vraiment ? Est-il un conservateur masqué, un réformateur prudent ou un révolutionnaire audacieux ? C'est la question, ou même les questions, que pose Nicolas Tenaillon, qui a publié cet ouvrage « Dans la tête du pape François », c'est aux éditions Solin Actes Sud. Évidemment, on parle aussi de son style. Peut-on dire qu'il tend à modifier le contenu du message de l'Église ? Et puis, est-ce qu'il innove sur tout un tas de sujets ? Bonjour Nicolas Tenaillon.
Bonjour.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Vous êtes agrégé de philosophie. Se lancer sur l'écriture d'une sorte de biographie du pape François, qui est plus que cela, c'est une forme d'introspection pour aller découvrir l'envers du personnage, un personnage qu'on connaît finalement assez peu.
Oui, c'est un personnage très complexe et c'était intéressant de l'aborder d'un point de vue philosophique. Il y a d'ailleurs eu un colloque à Paris sur le pape François et la philosophie en novembre dernier. Je ne suis pas le premier à m'interroger sur ces fondements, le fondement de sa pensée. Ce qui est intéressant, c'est que derrière un homme qui a son franc-parler, un discours très imagé, assez simple parfois, on s'aperçoit qu'il y a un grand travail de méditation, une très forte culture, parce qu'il a été formé chez les jésuites, et c'est cela que j'ai sondé, et je trouve que c'est très intéressant à étudier.
Qu'est-ce que vous observez quand vous le voyez dans les médias ?
Je m'amuse un peu en le voyant parce qu'on retient souvent ces bonnes petites phrases, et il y en a beaucoup, c'est vrai, et on oublie que derrière cette spontanéité, il y a en réalité un très grand travail spirituel, mais aussi méditatif, et finalement d'un personnage qui est assez difficile à sonder et qui garde le sens du secret, à mon avis. Il y a quelque chose de très secret au fond de sa personnalité.
Quand on dit c'est le pape des non-catholiques ?
Alors, le pape des non-catholiques, je ne sais pas. C'est clair que c'est sans doute l'un des papes les plus attachés au discours interreligieux et à l'œcuménisme. C'est aussi un pape qui sait se tourner vers les athées et qui, en un sens, sait les respecter. Il a une capacité d'écoute qui fait que ce qui pourrait apparaître comme un adversaire, il admet que l'adversaire possède une forme de vérité. Et donc il a des choses à apprendre, en particulier de ceux qui pensent différemment de lui.
Et c'est ce qui agace un petit peu en interne, c'est que en fait, plus vous êtes proche, plus vous êtes réprimandé,
oui.
Plus vous êtes loin, plus vous êtes encensé.
Oui, et il n'est pas beaucoup aimé à la Curie. En revanche, il est très apprécié dans les couches les plus populaires, mais en général aussi chez les gens qui sont éloignés du catholicisme, protestants, musulmans et athées.
Mais ce n'est pas forcément une ligne qui le sépare des papes qui ont précédé quand on dit qu'il n'est pas aimé par la Curie, parce que Benoît XVI, on ne peut pas dire que les choses étaient faciles entre la Curie et Benoît XVI. Jean-Paul II a tout fait pour sortir du Vatican.
Oui.
Il y est assez bien parvenu d'ailleurs, le pape baladeur, comme on l'appelait. Donc il y a un peu une constante là.
Oui, mais peut-être une accentuation. Alors, le pape François n'est pas un pape baladeur. Hein. Il n'aime pas voyager, il l'a dit. Il est assez casanier. Mais je crois que malgré tout, la Curie la voit comme, je dirais, un lieu très difficile à faire évoluer. Et donc, de ce point de vue-là, il est sans doute un pape qui prend plus la mesure de la nécessité de faire avancer les choses. Et je pense que ça s'accentue par rapport à ses prédécesseurs.
Mais est-ce que c'est lui qui fait évoluer la Curie ? Parce que vous rappelez que ce sont des cabinets américains. McKinsey, KPMG, Ernst & Young, qui font finalement les business à la Curie.
Oui, alors ça c'est surtout pour assainir les comptes et toutes les difficultés financières que connaît le Vatican. C'est aussi, il s'appuie sur le cabinet américain pour sa communication. Il a bien compris, mais ça pour le coup c'est pas le premier. Jean-Paul II était un grand communicant. Il a compris que on est dans une société qui est malheureusement une société du spectacle et qu'on peut pas faire l'économie de la communication. Il aime bien communiquer. Voilà. Mais par ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit simplement un continuateur. J'ai l'impression que ça va quand même plus loin.
Alors Nicolas Tenaillon, on va voir un peu qui vous êtes. On va explorer des sujets que vous abordez de manière extrêmement circonstanciée, étayée. On voit que vous êtes beaucoup documenté. Puis il y a des entretiens aussi en propre que vous avez eus avec des personnes qui vous ont livré de l'information. Si vous êtes né à Narbonne en 70, c'est à Nice que vous avez grandi avant de rejoindre Paris pour réaliser vos études supérieures. Et ce sont les cours de philosophie que vous décidez de suivre sur les bancs de la Sorbonne, la philo, qui vous titille depuis vos années lycée et la terminale. Marion Duchesne.
Penser par soi-même, mais pas tout seul, utiliser son sens critique, voilà ce qui m'a toujours passionné dans la philosophie, explique Nicolas Tenaillon. Un DEA en 1998, une agrégation un an plus tard, il sort premier de sa promo. En 2003, il décroche aussi un master d'histoire des religions à l'université Lille 3. La religion, elle m'a attiré dès le plus jeune âge, raconte Nicolas Tenaillon, qui réalise d'ailleurs sa maîtrise sur le Christ chez Hegel et Spinoza. Profondément attaché à l'Église et à la justesse du message de Jésus, il apprécie l'évangile de Saint Jean, le livre de Job et la théologie négative des Cappadociens et de Denis l'Aréopagite. Au cœur de la réflexion de Nicolas Tenaillon, le lien entre politique et religion, c'est un lien qu'il faut penser avec des garde-fous, explique-t-il, prenant l'exemple de la laïcité à la française. Elle fonctionne assez bien, mais reste fragile. Le maître à penser de Nicolas Tenaillon, Paul Ricoeur lance-t-il, et comme Ricoeur, le philosophe entend enseigner des valeurs. 13 ans qu'il apprend la philosophie politique à ses étudiants de l'Université catholique de Lille, avec cette année un cours sur la philosophie de la guerre. Il mène également les prépas HEC qui le souhaitent jusqu'au concours général de théologie. Adepte de la rhétorique, Nicolas Tenaillon a rassemblé tous ses écrits pour Philosophie Magazine dans un ouvrage intitulé « L'art d'avoir toujours raison sans peine » paru chez Philo Éditions en 2014. Ce père de 5 enfants a également fait de nombreuses retraites chez les bénédictins. Il dialogue très souvent avec les dominicains. « Je suis pour un catholicisme ouvert, une approche pas trop élitiste de la religion », répète Nicolas Tenaillon. Pas étonnant donc qu'il ait choisi d'entrer dans la tête du pape François. « Je voulais comprendre comment ce pape jésuite, extrêmement réfléchi, moderne et progressiste sur certains points, produisait un discours si simple à l'arrivée. »
Allez, puisqu'on en parle et qu'on en parlait hier dans le prolongement de notre discussion hier, nous avions une réflexion sur la guerre civile avec deux invités qui, après l'attentat de Manchester, eh bien, essayaient de savoir ce qui pouvait être fait, en fait, pour éviter qu'il y ait des affrontements qui s'aggravent. Comment expliquez-vous, justement, est-ce qu'on est en état de guerre aujourd'hui, d'ailleurs, parce que le pape François le dit, j'avais commencé d'ailleurs hier comme ça, la guerre en morceaux.
Oui, oui, il a carrément dit que nous sommes entrés dans une troisième guerre mondiale, une guerre alors très discontinue, disparate, elle n'est pas du tout, évidemment, une guerre classique. Alors peut-être l'expression est un peu exagérée parce que le pape est profondément iréniste. C'est vraiment quelqu'un hier, c'est le premier message qu'il a rappelé à Donald Trump, hein, la paix avant tout. Le nom de François lui-même aussi vient de là, ce goût pour la paix. Donc je pense que c'est un peu exagéré. Il utilise cette formule, mais je ne suis pas sûr qu'il croit réellement que nous sommes dans une guerre au sens le plus fort du terme. Voilà, je n'irai pas jusque-là. Alors quant à la guerre civile, bon, je pense que c'est un concept qui est très mal pensé. Il y a des essais en philosophie de ce qu'on appelle la stasiologie. Stasis, ça veut dire la guerre civile chez les Grecs. Il y a un effort pour penser cet entre-deux très délicat à penser qu'est la guerre civile qui mélange le privé et le public. On a beaucoup voulu dire ça aujourd'hui, que nous sommes rentrés en guerre civile. Personnellement, je ne le pense pas.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que la guerre, c'est surtout de la violence, des morts physiques. Et même s'il y a bien sûr des attentats, il y a une question de proportion. Sans tomber dans la comptabilité funèbre, je pense que si on était en guerre civile, on le vivrait au quotidien et chacun aurait peur de sortir de chez lui. Alors, j'ai pas le sentiment qu'en France, on en soit là.
Est-ce qu'il n'y a pas, pour rebondir un peu sur ce que vous écrivez, est-ce qu'il n'y a pas une dimension messianique, par exemple, dans l'islam, que le christianisme a un peu perdu et que le pape François voudrait revigorer cette dimension du message évangélique, le fait d'aller aux périphéries, est-ce que c'est une forme de messianisme pour faire pièce à un autre messianisme qui est celui des musulmans ?
Alors là, je dirais que sur ce terrain-là, il faut faire très attention parce que le pape essaye de déminer tout ce qui pourrait opposer de manière trop forte le christianisme et l'islam. Là, ça me paraît assez clair. À chaque fois, on l'a vu avec le cas du Père Hénère, lorsqu'il a été assassiné, très vite, le pape a rappelé qu'il fallait privilégier l'amitié islamo-chrétienne. Alors là, de ce point de vue-là, il est très clair. Il fait vraiment un partage très, très fort pour éviter de tomber dans l'islamo-chrétien. L'homophobie, qui est une mauvaise pente dans laquelle certains chrétiens pourraient tomber.
Mais sans que ce soit énoncé, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui face à un messianisme qui nous oblige à réagir ?
À nous obliger à réagir, oui, mais avec les armes de la paix. Les seules armées du pape, ce sont les martyrs, ce sont les témoins. C'est la seule arme efficace contre la guerre, c'est un message de paix. Ça, il en est convaincu.
Alors, on va voir, Nicolas Tenaillon, ce qui constitue certaines de ses influences et puis certains aspects de sa pensée. En particulier, tenez, je vais prendre une phrase que vous allez commenter. La philosophie des Lumières, il est très hostile, semble-t-il, à la philosophie des Lumières, dont le préjugé fondamental est le préjugé contre les préjugés en général, qui enlève ainsi tout pouvoir à la tradition. Donc, il y a un préjugé. C'est amusant cette phrase de se dire finalement les Lumières qui entendent lutter contre les préjugés reposent sur un préjugé.
Oui, alors cette idée-là en fait en philosophie elle a été beaucoup développée par Gadamer. Gadamer c'est un philosophe allemand qui est l'équivalent en Allemagne en herméneutique de ce qu'est Paul Ricoeur en France. Il y a une critique des Lumières, l'espoir d'une raison omnisciente a plus ou moins échoué. Alors il y a une raison particulière pour laquelle le pape est assez critique à l'égard des Lumières, c'est que c'est à l'époque des Lumières espagnoles que le pape Clément XIV avait dissous l'ordre des Jésuites pendant 41 ans. Cet ordre avait disparu. Donc, pour lui, c'était un produit des Lumières, ce rejet, en quelque sorte, de l'ordre des Jésuites. Donc, il y a quelque chose qui le touche au cœur. Mais il y a aussi, à mon sens, un souci de se méfier des excès de la raison. Le pape a une dimension un peu mystique. Il considère que le mystère est fondamental dans l'équilibre psychique de l'humain, le respect du mystère. Or, les Lumières veulent tout éclairer. Et c'est cela qu'il reproche. Ça paraît assez évident quand on le lit, cet aspect-là.
Et si on prolonge, il y a une belle phrase. Une intelligence qui ne serait pas celle du cœur éloigne du bon usage de la raison.
Ah oui, alors ça c'est assez pascalien. Mais pour le coup, c'est clair que pour le pape, l'intelligence du cœur prime très largement sur toute autre forme d'intelligence. Là, je dirais qu'il est presque paulinien. C'est-à-dire qu'il y a une critique à l'égard d'une certaine philosophie. On se souvient que Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que dans leur sagesse, ils sont devenus fous en parlant des philosophes. Voilà, il y a un excès de la raison qu'il condamne. Mais ça ne l'empêche pas d'être par ailleurs un rationaliste. Comme beaucoup de jésuites, il a une formation philosophique poussée, il a une licence de philosophie et il a pu rétorquer par exemple à Scalfari, qui était le rédacteur en chef de La Repubblica, qui est un athée. Lorsque celui-ci lui a dit qu'il a perdu la foi en découvrant le cogito de Descartes, le pape s'est empressé de lui dire que Descartes était un fervent croyant et qu'à côté du cogito, il y avait un dieu éternel, un dieu vérace.
La question de Dieu en philosophie, finalement, jusqu'à Hegel, peut-être ne posait pas tellement de problèmes.
Non, elle ne posait pas tellement de problèmes, encore que c'est dans le christianisme que les premières preuves de l'existence de Dieu, à partir de Saint-Anselme, sont apparues. Et donc, il y a eu assez tôt, dans l'Occident, un questionnement, disons.
Donc là, le pape François, par exemple, sur la raison, il est assez proche de son prédécesseur, quand même.
Oui,
une analyse assez...
oui alors, avec cette différence que Benoît XVI était quand même un théologien, peut-être plus philosophe, on le voit dans ses encycliques, il cite Nietzsche, par exemple. Le pape, assurément, est moins philosophe. Voilà. C'est un pasteur, et il critique beaucoup la théologie de bureau, les théologiens de bibliothèque. D'ailleurs, quand on écrit un livre sur lui, on se pose la question si on n'est pas un peu visé par ce reproche-là. Lui, pour lui, être chrétien, c'est être sur le terrain. Voilà. Donc, une réflexion, mais qui doit à un moment donné s'arrêter et passer à l'action.
Donc Hans-Georg Gadamer, qui est l'une de ses influences. Il y en a une autre, Romano Guardini, est-ce que vous pouvez nous dire ? Parce qu'elle n'est pas forcément connue du public français. Non.
Alors Romano Guardini, c'est un grand théologien, son nom est italien, mais c'est un théologien allemand qui a énormément influencé le magistère. C'est un personnage de référence pour Jean-Paul II, pour Benoît XVI. Il a écrit un très gros livre qui a été un succès, qu'on ne lit plus, qui s'appelle Le Seigneur. Et c'est un livre assez audacieux qui essaye de comprendre une relecture des évangiles et du Christ de l'intérieur, pourrait-on dire. Alors ça, Guardini l'a influencé, mais c'est, je dirais, la lecture commune avec les papes qui l'ont précédé. Mais lui voulait faire une thèse sur Guardini et s'arrêter notamment sur un livre le plus philosophique de Guardini qui s'appelle « La polarité » et qui va beaucoup lui servir pour penser les tensions. Pour lui, la réalité est faite de tensions, de différences, et il applique cette idée-là à toute chose. D'où cette ouverture vis-à-vis de ce qui n'est pas lui ou ce qui ne pense pas comme lui.
Alors, on va essayer de, puisqu'on est dans la tête du pape François, on essaie de savoir ce qui se passe dans cette tête papale, si on peut dire. Il y a l'image, puisque vous parlez de tension, et si on évolue un petit peu sur ce terrain, il y a l'image du parallélogramme, ou plutôt du polyèdre.
Oui.
Il y a une phrase que vous citez, hein, c'est pourquoi toute action trace une diagonale dans le parallélogramme de forces discordantes. L'action renferme éminemment dans son unité toute la multiplicité des motifs ou des mobiles qui l'ont combattu. Et là, son inspiration, c'est Maurice Blondel, dans le manuscrit 1890. Est-ce que vous pouvez expliquer parce que ça,
oui,
explique la figure du polyèdre à laquelle il se rattache.
Alors, en fait, ce que vous citez là, une figure qu'il aime beaucoup, c'est celle du polyèdre. C'est une figure qui l'oppose à celle de la sphère. La sphère lisse les différences, elle les obscurcit, tous les points sont équidistants par rapport au centre. Le polyèdre maintient les différences, mais les fait tenir ensemble. Donc, cette image lui plaît beaucoup, et il le dit d'ailleurs, l'humanité est un magnifique polyèdre. Il se plaît à imaginer l'humanité comme un magnifique polyèdre, donc on voit bien qu'on est dans un pluralisme, dans un souci du respect des différences.
Donc un polyèdre, qu'est-ce que c'est en fait ?
Un polyèdre, c'est comme un cristal, c'est-à-dire c'est une figure qui tient, mais qui peut être irrégulier. Donc c'est cette figure un peu bizarre, une sorte de parallélogramme qui fonctionne en quelque sorte, et avec des arêtes, avec des points saillants. Mais le tout, c'est que ça tienne ensemble. Et ce que vous citiez sur l'action, c'est en fait le Père Scanone, qui était le professeur de philosophie du pape François, qui est allé chercher la source de ce polyèdre et qui a cru pouvoir la trouver dans un passage de la pensée de Blondel, qui était connu à l'époque en Argentine à travers certaines interprétations. Et donc c'est peut-être là sa source. Voilà.
Et qu'est-ce que ça veut dire ? L'action renferme éminemment dans son unité toute la multiplicité des motifs ou des mobiles qui l'ont combattu. C'est-à-dire qu'on avance par le dépassement des contraires.
On avance par le dépassement des contraires, mais ici on peut peut-être faire avancer la notion d'inculturation qu'on oppose à l'acculturation. Il ne s'agit pas de capter la différence pour la ramener au même, ça c'est une logique un peu hegelienne. Il s'agit de prendre la différence pour ce qu'elle est, de la respecter et de s'y confronter, de lui accorder une valeur qu'on n'a peut-être pas dans sa propre vision du monde, de façon à progresser. Et donc le thème
par exemple,
de
ce qu'il a dit sur les homosexuels, ça pourrait être l'illustration.
Tout à fait. Le pape, à mon avis, dans sa pensée, est quelqu'un de très ouvert et qui est encore capable d'apprendre en dépit de son grand âge. Et c'est ça, à mon avis, qui plaît énormément. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que dans sa vision de l'histoire et du monde, c'est un progressiste. Voilà. Je crois qu'il a une capacité d'ouverture que n'avaient peut-être pas les autres papes. Alors, il ne faut pas aller trop loin dans cette voie-là, parce que par ailleurs, on sait qu'il est assez rigoriste en morale. Et même dans les sources de sa pensée, il fait référence à des auteurs qui sont des classiques, si vous voulez. Mais il y a une capacité d'écoute qui est réelle et qui, à mon avis, joue dans sa vision de l'Église, dans sa manière de mener l'Église.
Est-ce qu'il ne faut pas entendre progressisme au sens même de la procédure, dans la façon de poser un sujet et de progresser dans un sujet ?
Ah oui, tout à fait.
De poser le sujet. Est-ce que ce n'est pas ça, sa marque, finalement ? Je citais sa phrase sur les homosexuels. Est-ce que ce n'est pas typiquement sa marque, ça ?
Oui, on peut le dire. Je pense qu'on peut dire ça.
Qui peut-être nous désarçonne parce qu'il ne part pas d'un point de vue... ne parle pas du sommet pour aller à la base, mais
oui, il a une vision. C'est ça, il a une vision. Alors là, ça vient un peu des communautés de base. Il croit beaucoup au peuple. Il y a une image qui est assez belle. Et bon, il reproche aux prêtres, aux évêques, de ne pas avoir l'odeur du mouton, de ne pas être des bons bergers, de ne pas être au cœur de. Mais il y a une autre phrase. Alors celle-là est bien connue, mais il y a une autre phrase qu'il cite. Il dit le troupeau a un flair particulier pour trouver les bons chemins. Et donc, il estime que ce qui vient de la base peut nous éclairer. Il faut savoir l'écouter, parce que ça peut nous emmener dans des chemins de l'histoire qui nous rapprocheraient de Dieu. Et donc si on arrive avec une idéologie qu'on vient plaquer sur le réel, avec une vision fermée de ce qui attend en quelque sorte le monde, eh bien beaucoup de chances beaucoup de risques que l'on soit en décalage par rapport à la réalité.
Est-ce que vous diriez, Nicolas Tenaillon, que le pape François est, je ne sais pas, est proche de l'école de phénoménologie qui voit d'abord dans les représentations et les façons dont les choses s'expriment une forme d'expression de la vérité?
Oui, alors d'abord il la connaît, la phénoménologie, elle lui a été enseignée par son professeur, le père Scannon, qui lui-même avait été un élève de Ricoeur, connaissait bien la phénoménologie, était venu en France se former. Oui, la phénoménologie décrit les choses, elle ne démontre pas, et ce souci de la description, c'est-à-dire d'accueillir la différence et de la respecter pleinement, participe certainement de sa pensée.
Ouais. Évidemment, ça peut passer pour être, pas forcément démagogique, mais comment dirais-je, ça peut brouiller certains repères quand on doit parler d'une certaine façon ex-cathédra.
Ben oui, c'est certain, il y a des gens qui n'attendent pas ça.
C'est ça.
Et c'est pour
la
ça
distorsion
qu'il
peut y avoir.
Oui, il y a des gens qui n'attendent pas ça du tout du pape. Alors, peut-être on peut éclairer ça avec la notion d'autorité. Il a beaucoup réfléchi sur la notion d'autorité. Il retourne à l'étymologie latine et grecque du terme. Et pour lui, l'autorité, c'est vraiment faire croître des processus, accompagner plus qu'imposer. Évidemment, des gens qui attendent du pape qu'il soit une figure de l'autorité, qui impose des dogmes, qui guide l'Église en étant une sorte d'éclaireur, alors que lui est plutôt celui qui voudrait suivre un mouvement qui vient de la base, ceux-là sont évidemment déçus ou désarçonnés.
Alors justement, autorité vient de augere, qui signifie faire croître, précisément, et puis exousia en grec, littéralement, ce qui provient de l'être que l'on est.
Oui. Oui, alors c'est une réflexion parce qu'on lui a beaucoup reproché son autoritarisme et lui-même se dit autoritaire. Et de fait, alors j'ai assez de bonnes sources pour savoir qu'il a la réputation, il est probablement quelqu'un d'assez autoritaire. Mais il réfléchit sur ça. Et son autoritarisme peut être nuancé par le fait que derrière la notion d'autorité, il n'est pas dans une direction, je le répète, qui imposerait de manière trop brutale les choses. Il l'a fait quand il était au tout début responsable de la Compagnie de Jésus en Argentine et au Paraguay. Mais il a évolué là-dessus.
Ça lui a valu une sorte de dépression dans sa carrière.
Oh là là, oui. Et un ostracisme.
On va y revenir là-dessus. C'est important parce que c'était une forme de, non pas de traversée du désert, mais avant qu'il revienne archevêque de Buenos Aires, il a quand même connu à Cordoba, par exemple, une forme de
d'exil.
D'exil.
Oui, absolument.
En tout cas, il l'a vécu comme ça.
Il l'a vécu comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet obstacle, dans l'évolution de sa pensée, il a voulu le méditer. Il a été beaucoup influencé par un livre d'un jésuite américain qui s'appelle John Navon et qui avait écrit une théologie de l'échec et qu'il a lu et relu. Et il a compris que l'échec pouvait être porteur parce qu'oblige à se décentrer.
En tout cas, l'avenir lui a donné forcément raison.
Oui.
Bonjour à tous. Après l'attentat de Manchester, le gouvernement français a annoncé mercredi vouloir prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, le temps d'adopter une nouvelle loi anti-d'exception en vigueur depuis les attaques djihadistes de novembre 2015. Lors d'une réunion du Conseil de défense, la deuxième depuis son élection, Emmanuel Macron a donc annoncé qu'il demanderait au Parlement de prolonger l'état d'urgence qui devait arriver à échéance le 15 juillet prochain. Le quinquennat Macron, qui connaît sa première fausse note avec une affaire immobilière révélée par le Canard enchaîné autour du ministre Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, alors que le gouvernement prépare une loi de moralisation de la vie publique. Le Parti des Républicains, en pleine campagne pour les législatives après une présidentielle plombée par les affaires, a rapidement attaqué en annonçant mercredi son intention de saisir le parquet national financier pour qu'il ouvre une enquête. Mais les faits évoqués à ce stade n'entrent pas dans le champ de compétence du PNF, a fait savoir une source proche du dossier. Après une flambée en mars, Pôle emploi a vu le chômage baisser en avril. Nouvel exemple de la volatilité de l'indicateur que la ministre du Travail ne compte plus commenter. Le nombre de chômeurs qui avait bondi en mars a reculé de 36 300 en avril pour s'établir en métropole à 3 470 000 personnes, selon les chiffres du ministère du Travail. L'éclaircie est toutefois en demi-teinte. Elle s'accompagne en effet d'une hausse du nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois. Le président Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump auront, selon l'Élysée, des échanges très directs lors de leur première rencontre aujourd'hui à Bruxelles en marge d'un sommet de l'OTAN. Trois thèmes seront au menu de leur déjeuner de travail. Le sommet de l'Alliance Atlantique qui s'ouvrira dans la foulée. Le G7 de vendredi et samedi à Taormina en Italie. Les crises régionales ainsi que les questions bilatérales, notamment économiques. L'OTAN qui a décidé mercredi de rejoindre la coalition internationale contre le groupe djihadiste Daesh en Irak et en Syrie, emmené par Washington, comme le réclament depuis plus d'un an les États-Unis. Le nouveau président américain Donald Trump, qui doit participer donc aujourd'hui à son premier sommet de l'OTAN, espérait arracher cette concession malgré l'opposition de pays comme l'Italie et la France, qui craignent que cela n'écorne l'image de l'alliance, notamment dans le monde arabe. Chacun des 28 États membres de l'OTAN fait déjà partie à titre individuel de cette coalition, mais l'alliance préférait le statut d'observateur. Enfin, un enfant sur quatre dans le monde, soit 535 millions d'entre eux, sont affectés par les catastrophes naturelles, les conflits armés, les violences et les crises. C'est l'alerte lancée hier par l'UNICEF. Le fonds de l'ONU pour l'enfance a tiré la sonnette d'alarme lors de la réunion de la 5e plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes qui se tient jusqu'à la fin de la semaine à Cancun, au Mexique.
Le grand témoin, Louis Dauphrène.
Je ne sais pas si Nicolas Tenaillon écrira un jour dans la tête de Donald Trump, après tout. On ne sait pas ce qui s'y passe. C'est peut-être plus facile ou plus rapide à écrire. Je ne sais pas que pour le pape François, certainement. Hein. En tout cas, vu ce qu'il a écrit à Yad Vashem, vous savez, le « wow » de son mot, on peut douter qu'il y ait grand-chose à dire. Mais enfin, sait-on jamais. Alors, on parle de du pape François et dans la tête du pape François. Donc, c'est aux éditions Solar Actes Sud. Vous êtes philosophe. Et on essaie de voir quelles sont les influences que le pape François, auquel il se rattache. Et puis, le discours, les questions qu'on a posées au départ, où est-ce qu'il veut emmener l'Église précisément? Alors, je vous propose d'abord qu'on écoute l'éditorial de Gérard Leclerc qui nous livre quelques réflexions après l'attentat de Manchester. Vous allez voir comment on peut essayer de croiser les choses avec ce que pense le pape et puis l'actualité la plus dramatique.
Le danger djihadiste qui hante en ce moment tous les pays d'Europe et que vient de raviver l'odieux attentat de Manchester a-t-il une portée civilisationnelle? Cela prête à controverse en ce moment. Alain Finkielkraut et Régis Debray se sont opposés sur le sujet. L'opinion du second, que nous citions déjà à propos de l'orchestration médiatique des attentats, est formelle. Une menace sécuritaire ne constitue pas une offre civilisationnelle crédible. Et l'islamisme n'en a aucune à proposer. Il peut causer des désordres, non constituer un ordre de rechange. Mettre à mal ici et là la civilité, non mettre en pièce une civilisation. La démonstration qui suit est éloquente. L'islamisme extrémiste est fort de son fanatisme, de ses coups d'éclat. Mais il est dans la capacité d'organiser un ordre, un empire. Ses succès sont momentanés. Il ne dispose d'aucun des moyens scientifiques, industriels, culturels, capables de substituer son mode de vie au nôtre. La réplique intervient du côté des contradicteurs qui prient l'habitant du Quai Latin de franchir la Seine pour se rendre compte de ce qui se passe dans d'autres secteurs de Paris. Il y a un scandale dénoncé ces jours-ci dans le quartier Chapelle-Payolle où les femmes n'ont plus le droit de citer, insultées quotidiennement lorsqu'elles s'avisent de sortir dans la rue. Désormais, témoignent des gens aux Parisiens, notre quartier est abandonné aux seuls hommes. Plus une femme dans les cafés, pas un enfant dans le square Louise de Marillac. Certaines d'entre nous se terrent chez elles. N'est-ce pas le président François Hollande lui-même qui déclarait que certaines zones de banlieue avaient fait sécession d'avec le pays et que la puissance publique se trouvait paralysée, incapable de réagir efficacement? N'est-ce pas par le biais démographique, agent du grand remplacement, que peut se produire la mutation de civilisation? Et même si on ne va pas jusque-là, n'est-ce pas notre société qui est en risque de désagrégation, ajoute Alain Finkielkraut. Régis Debray n'est pas convaincu. Malgré son importance, il croit le phénomène limité. L'islam, préoccupation, oui. Obnubilation, non. La discussion se poursuivra. Elle n'est pas prête de se clore.
Alors, Nicolas Tenaillon, qu'est-ce que vous en pensez de cette controverse?
Moi, je serais évidemment plus proche de Régis Debray sur ce point-là. C'est-à-dire que je me méfie du catastrophisme, des exagérations, bien sûr. Hein, il y a des grandes préoccupations. Mais je vous l'ai dit, je crois que...
Les femmes chassées de certains quartiers, c'est une réalité.
C'est une réalité, mais la seule réponse possible, c'est le dialogue. Hein. C'est certainement pas la dureté, le rejet. Alors ça, c'est un phénomène qui accentuerait encore, une position qui accentuerait. Derrière ce que j'ai entendu là, il y a le risque de tomber dans le choc des civilisations. Et s'il y a bien quelqu'un qui veut éviter le choc des civilisations, c'est le pape François.
Mais quand le choc vous est imposé, parce que, évidemment, c'est une chose de le désirer, auquel cas vous êtes un fauteur de guerre. C'est autre chose que d'y répondre.
Oui, alors la question, c'est quelle est la vraie réponse ? Moi, dans mon cours sur la philosophie de la guerre, c'est toujours cet argument. La guerre est un fait, c'est une réalité, donc la position pacifiste, iréniste et idéaliste. Mais à un moment donné, il faut bien répondre, résister. Alors, je suis bien d'accord. Mais il me semble que la ligne chrétienne n'a pas d'autre choix que la résistance par le dialogue, par la compréhension, par l'ouverture, essentiellement vers l'ouverture. Et je crois que le pape François, systématiquement, à chaque fois qu'il y a eu un attentat, a appelé à plus de dialogue entre l'islam et les chrétiens et pas d'opposition. Parce qu'il a une vision claire des évolutions démographiques. La région musulmane pourrait bien être la première du monde en 2050. Si on commence à tenir un discours hostile, ça ne fonctionnera jamais. Donc il y a une compréhension qui est demandée et un souci de placer une frontière très, très nette entre islamisme et islam.
Mais pour le coup, Nicolas Tenaillon, on a l'impression, en tout cas c'est un regard peut-être français, qu'il ne voit pas l'islam dans, comment dirais-je, qu'il ne l'intègre pas dans le registre de ses deux familiers, que c'est quelque chose qui lui est assez étranger, assez lointain.
C'est pas tout à fait vrai.
Alors, France a une connaissance lointaine de ce phénomène.
Mais c'est sûr que venant d'Argentine, il y est moins confronté. Il a une très bonne amitié avec le rabbin qui était responsable du séminaire rabbinique à Buenos Aires, Corca. Et puis plus tardivement, il a eu une bonne amitié aussi avec un certain Mahmoud qui est au début des années 2000, qui est un musulman. Ce sont deux personnages qu'il a fait, deux personnes avec lesquelles il a voyagé quand il est allé en Israël. Et puis vous vous souvenez qu'il avait invité, ça avait fait polémique d'ailleurs, au Vatican, l'imam, à chanter même dans les jardins du Vatican. Mm-hmm. Donc vraiment, je ne pense pas qu'il n'intègre pas, il mesure bien la difficulté, il est quand même très au courant de ce qui se passe en Syrie pour les chrétiens d'Orient. Et il a rappelé que l'islam devait lutter contre l'islamisme. Il a demandé aux musulmans de prendre leurs responsabilités par rapport à cette dérive. Mais justement, parce qu'il demande ça, il a une confiance dans les dirigeants musulmans pour contrôler quelque chose qui nuit d'abord à eux, parce qu'on oublie de rappeler que les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans eux-mêmes.
Mais Nicolas Tenaillon, ça veut dire que vous fondez des espoirs, on fonde des espoirs en fait sur la réaction hypothétique de ceux qui ne souscrivent pas aux attaques de l'islamisme. Mais de notre côté, c'est peut-être une dimension assez anxiogène de nos sociétés, on ne voit pas la façon dont on organise notre défense. Vous voyez, il n'y a qu'à la réponse sécuritaire.
Oui.
Et la civilisation chrétienne, sans être le rempart incantatoire de la chrétienté, etc., ne semble pas apporter de réponse ou même proposer quelque chose, si ce n'est juste l'accueil des réfugiés, la rhétorique de l'accueil. On sort tout juste même de cette rhétorique de l'accueil, j'allais dire, de l'accueil inconditionnel. Vous savez, pendant des décennies, on a été sur l'accueil inconditionnel.
Oui.
On en sort un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de discernement, là?
Peut-être, oui.
Il
faut une générosité intelligente, je suis d'accord. Il faut savoir ce qu'on peut, quelles sont les menaces réelles. Mais je crois qu'il y a une ligne. Alors même si elle est un peu en porte-à-faux par rapport à la réalité, dans le discours officiel, les catholiques, à mon avis, ne peuvent pas faire autre chose, sauf à se renier eux-mêmes, que tenir le discours de l'amitié, de l'accueil, du cœur. Si on commence à se braquer sur des principes, sur des dogmes, alors là, on va droit dans un conflit civilisationnel. Donc il faut tout pour l'éviter, il faut déminer un terrain. Alors c'est évident, les faits ont tendance à miner ce terrain-là. Mais la responsabilité du pape, c'est justement d'empêcher ce choc des civilisations. Et là, je crois qu'il en a absolument pleinement conscience. Et puis, je pense c'est quelqu'un qui voit à long terme, qui a une très bonne vision. Et moi, je serais d'accord avec Régis Debray. Je pense que le phénomène n'est pas un phénomène, on veut nous faire croire ça, qui va s'accroître. Les musulmans souffrent beaucoup de l'islamisme. Il faut le rappeler, ça.
Alors, il y a une sorte de tenaille dans laquelle le pape François et nous-mêmes sommes tous pris. D'un côté, il y a cette expression fanatique, peut-être, de la religion. Enfin, je dis peut-être, sûrement.
Oui, sûrement,
voilà,
sûrement.
On peut l'affirmer telle quelle. Voilà, qui se manifeste de la manière dont on peut le voir dans l'actualité assez régulièrement. Et puis de l'autre, il y a l'autre partie de la tenaille, c'est un athéisme pratique qui est réel et qui mine aussi nos sociétés de l'intérieur. Alors, est-ce que vous pouvez faire la distinction entre deux choses, l'athéisme messianique et l'athéisme libertin? Aujourd'hui, c'est l'athéisme libertin qui a pris le pas sur l'athéisme messianique. Est-ce qu'on peut resituer les choses, parce qu'il y a une influence importante pour le pape François, c'est la figure d'un philosophe uruguayen dont vous allez parler, que je ne connaissais pas du tout, Alberto Metol Ferré.
Oui, alors Metol Ferré, certains ne le considèrent pas comme un philosophe parce qu'il est très attaché à l'Amérique du Sud, à la décolonisation en quelque sorte de l'Amérique du Sud, des mentalités. Bon. Mais c'est un homme qui a beaucoup influencé le pape. Le pape le côtoyait depuis les années 70 très régulièrement dans son bureau et qui lui a offert une vision un peu philosophique des choses. Et c'est à mon avis un très bon penseur et qui fait cette analyse-là. Il dit voilà, l'athéisme messianique, c'est-à-dire marxiste, ne passera pas réellement le millénaire. En revanche, on voit arriver un athéisme libertin qui est beaucoup plus difficile à combattre parce qu'il n'est pas fondé sur une idéologie. Il consiste essentiellement en une pratique. L'athéisme libertin, c'est cette manière de vivre de manière très individualiste, de rechercher le plaisir et dans une sorte d'indifférence à l'égard du religieux. Et face à cette pratique, eh bien, le christianisme ne peut offrir qu'une autre pratique, fondée certes sur des principes, mais la lutte ne peut pas se faire d'idée à idée. Et d'où la nécessité de la pastorale, qui est vraiment le cœur de l'action du pape, et aussi de l'exemplarité. Voilà. C'est l'exemplarité dans la conduite, et cette exemplarité passe par l'ouverture, qui, selon le pape, peut lutter contre cet athéisme libertin, qui est très bien analysé par Metol Ferré, qui vient de loin, et qui fait qu'aujourd'hui...
C'est le Marquis de Sade, en fait, hein, c'est ça ?
Le Marquis de Sade a triomphé, en quelque sorte, c'est-à-dire que nous vivons dans une sorte d'hédonisme. Voilà. Et ça se voit beaucoup dans des pratiques, par exemple, c'est Paul Valadier qui faisait un parallèle entre la désaffection pour le religieux et la désaffection pour le politique, l'abstentionnisme en politique. La personne se recentre sur elle-même et ne vit que ses petits plaisirs. Et ça, c'est un danger majeur. Non pas simplement pour la religion catholique, mais pour toutes les religions aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'athéisme libertin, contrairement à l'athéisme messianique, ne professe rien.
Non, c'est une manière de vivre, avec une vision à très court terme, à mon avis. Alors assez tranquille, c'est pas agressif. L'athéiste libertin ne viendra pas tenir des grands discours contre Dieu. Il s'en moque. Voilà, la question ne l'intéresse pas. Il dira, vivez votre religion comme vous le voulez, laissez-moi tranquille. Sauf qu'avec cette mentalité-là, vous arrivez difficilement à faire une unité, à lever des communautés entières qui pourraient œuvrer au bien commun, puisque chacun est recentré sur soi-même. Et ça, c'est quand même... L'hyper-individualisme a été bien décrit par la sociologie. C'est quand même une tendance très forte aujourd'hui.
Mais quand on vous dit, Nicolas Tonnayon, que ceux qui ont levé des communautés, généralement, l'ont fait pour la guerre... et pour des choses qui ont abouti à des issues funestes, et que finalement l'individualisme peut-être dissout la société, mais est un facteur de paix parce que chacun vit tranquillement dans son coin.
Tout à fait vrai, et d'autres plus en Europe qui a vécu les totalitarismes, donc on se méfie de tout ce qui est regroupement et adhésion à une idéologie, donc on préfère vivre avec soi. Mais le pape s'appuie alors ici sur un autre philosophe qui a dirigé le département de philosophie au Collège San Salvador en Argentine, qui a été l'un de ses maîtres, qui s'appelle Ismaël Quiles, et qui a fait une très belle réflexion sur ce qu'il appelle, alors un concept que j'ai découvert en écrivant le livre, l'insistentialisme, par opposition à l'existentialisme. Il a cette formule, il dit, au fond, il y a une manière d'être qui fait qu'aujourd'hui, l'individu se coupe de sa propre profondeur. J'aime beaucoup cette expression. On n'est plus capable, alors au nom d'un... Alors c'est une critique de l'existentialisme sartrien, mais au nom d'une sortie de soi permanente et de projet qui fait qu'on vit finalement les plaisirs qui se présentent à nous, il n'y a plus ce recueillement qui donne de la force à l'individu et qui lui permet de se relier aux autres. Parce que paradoxalement, peut-être, c'est en se recueillant et en s'approfondissant soi-même dans la méditation qu'on peut retrouver ce point commun qu'on a avec les autres et cette manière de vivre ensemble. Voilà. Et là, le pape, à mon avis, voit juste dans cette critique, cette forme de critique de l'individualisme.
Donc Alberto Metol Ferré et Ismaël Quiles ne sont pas du tout connus en Occident.
Pas du tout. Moi, ce que j'ai découvert en faisant le livre, c'est qu'il y a une très forte philosophie en Amérique du Sud, qui est très peu enseignée, et ce qui prouve que, eh bien, on est très européocentré. Il y a un concept qui est très intéressant de Metol Ferré qui oppose l'église source et l'église miroir. Et il dit qu'il faut casser cette image-là. L'église source était Rome, l'église miroir, bien, c'était toutes les périphéries qui devaient refléter l'église source. Il faut inverser le rapport. L'une des thèses essentielles du pape, c'est que c'est par la périphérie qu'on voit bien les choses, qu'on les apprend. Il cite un exemple amusant, il dit Magellan était mieux à même de parler de l'Espagne quand il passait le cap de Bonne-Espérance qu'un madrilène. Pourquoi ? Parce que quand on est au centre, on ne voit rien. Quand on est à la périphérie, on voit les choses de loin et on les comprend mieux. Voilà. Et Metol Ferré a appris ça, je pense. Et moi, j'ai découvert ça. Même l'enseignement de la philosophie en Europe reste très européocentré. Et on est finalement assez peu ouvert à ces pensées décoloniales qui ont leur richesse.
Ça, c'est presque une pensée géographique, hein, géolocalisée.
Tout à fait.
C'est lié vraiment à la carte du monde.
Exactement. Et d'où l'idée qu'on a à apprendre de la différence. Il s'est présenté lui-même comme un homme qui venait du bout du monde. Eh bien, il y a une grande richesse de recevoir quelque chose de quelqu'un qui vient du bout du monde.
On ne mesure pas assez ce que ça représente aujourd'hui comme... pour l'Église, peut-être, comme forme de révolution au sens strict du terme.
Oui, c'est peut-être ça qui dérange beaucoup. C'est cette mentalité qui n'est pas du tout la nôtre, qui n'est même pas la mentalité italienne, alors qu'un tiers de la population argentine est d'origine d'une migration italienne. Il y a vraiment une inculturation très particulière en Argentine. Et il est clair que le pape porte ça en lui et essaye de le diffuser autour de lui.
La question des migrants, évidemment, prend un relief particulier, d'autant qu'il y a une histoire familiale assez forte sur cette question des migrants.
Oui, on ne sait pas toujours, mais c'est les parents du pape devaient prendre un bateau pour rejoindre le reste de la famille qui était déjà en Argentine. Et puis le départ a retardé et ce bateau a coulé, faisant plus de 300 morts au large du Brésil. Et donc, on sait très bien que l'un des premiers gestes du pape lorsqu'il a été nommé, c'était d'aller à Lampedusa, de jeter une couronne de fleurs dans cette mer. Pour lui, ça évoque quelque chose. C'est évidemment une histoire qu'il n'a pas vécue. Il est né après, d'ailleurs, en 1936. Mais on lui l'a certainement dit.
C'est une histoire quasiment familiale.
C'est une histoire familiale. Donc, le discours à l'égard des migrants, c'est un discours qui ne relève pas simplement du théorique. Il y a quelque chose de vécu, d'intérieur, dans son rapport aux migrants.
Est-ce qu'on peut imaginer, parce que la question que l'on posait, que vous posez d'ailleurs, hein, qui est quand même une question absolument clé, hein, celle qu'on posait au tout début, qu'est-ce qu'il veut, que veut le pape François pour l'Église d'aujourd'hui et de demain? Comment est-ce qu'on peut répondre à une question pareille? Est-ce que d'ailleurs, puisque vous êtes fait l'apologue en quelque sorte d'une vision qui était moins européocentrée, est-ce que le pape même a une influence sur le cours de l'Église d'une certaine façon? Est-ce que ce n'est pas déjà être dans un ancien logiciel que de dire que c'est le pape qui va faire évoluer l'Église?
Eh bien peut-être, oui, vous avez parfaitement raison. Il espère peut-être que ça ne soit plus le pape qui décide de l'Église, mais les diocèses locaux, il veut une Église plus horizontale, il l'a dit répété. Alors pour répondre à votre question sur l'avenir de l'Église, mais je crois que, alors c'est pas forcément facile à entendre, qu'il ne veut pas faire du prosélytisme, il ne veut pas que les choses prendront leur temps, mais il n'imagine pas un monde qui deviendrait entièrement catholique. Il prend fait en acte, je dirais que le monde est pluriel aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est qu'une Église catholique qui soit fière d'elle-même, qui apporte quelque chose, qui stoppe l'hémorragie, parce que il l'a bien dit, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est pas tellement d'essayer d'attirer des gens, c'est d'éviter que les gens en sortent. Et il dit, il faut qu'elle devienne visible et positivement visible, qu'elle montre ce qu'elle a de mieux. Et je pense qu'elle a de mieux, c'est dans la première phrase de l'évangile de Marc, hein, c'est bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de joyeux dans l'Église. Et dans les 15 maladies de la curie, il rappelait, il y a la maladie du visage lugubre. Ce qu'il veut pas, c'est ces têtes de momie qu'ont certains croyants, cette tristesse. Il dit, il y a une joie, la joie de la vie éternelle, et c'est ça qu'il faut porter. Voilà, et d'où son insistance sur l'importance d'être de bonne humeur. Voilà, cette fameuse prière de Thomas More, hein, dont il a rappelé qu'il fallait peut-être la méditer. Hein. Mon Dieu, donne-moi une bonne digestion et quelque chose à digérer. Ça commence comme ça. Donc quelque chose d'un peu léger peut-être là-dedans, mais il y a une réalité. C'est-à-dire que c'est un pape de la vie et de la vitalité, même si lui-même parfois peut avoir l'air très triste. On l'a vu hier sur la photo avec Donald Trump où il peut avoir une mine très grave. Hein, lui-même, on a dit que parfois il pouvait être très grave. Mais c'est un homme qui croit à la joie de l'Évangile. C'est le thème de tout son programme pastoral dans sa première exhortation apostolique.
Nicolas Tenaillon, est-ce que ce sera le pape de la réconciliation avec la frange traditionnelle ou traditionnaliste de l'Église?
C'est une bonne question, ça. Je pense qu'il est très habile. Il y a bien des éléments qui séparent le traditionnalisme de la vision, évidemment, du pape, et notamment son goût très fort pour l'œcuménisme. On l'a vu quand il s'est déplacé en Suède. Le fait qu'il va nommer 5 nouveaux cardinaux le 28 juin prochain, dont un cardinal qui est un catholique, un ancien protestant passé au catholicisme. Mais c'est pas du tout une OPA, hein. C'est plutôt une ouverture, parce que c'est un lien avec l'œcuménisme ou d'anciens martyrs. Donc je pense qu'il essaye de faire un chemin de route avec les traditionnalistes, qui sont des fervents croyants, mais il essaye probablement de les ramener vers quelque chose qui relève du Concile de Vatican II, qui avait été refusé par les lefévristes. Et en particulier, je pense que son souci, à lui personnellement, c'est que c'est le premier pape qui n'a pas vécu Vatican II, mais il veut porter Vatican II. Et donc, il ne reviendra pas en arrière là-dessus. Et donc, les lefévristes n'auront pas d'autre choix que d'accepter certaines choses de Vatican II. Alors, le feront-ils? C'est pas sûr.
Qu'est-ce qu'ils peuvent accepter ou qu'est-ce qui peut être proposé?
Alors, le point d'entente est certainement lié au rite, l'acceptation, par exemple, par le pape des mariages prononcés par des prêtres traditionnalistes, ça, c'est tout à fait possible.
Les ordinations, vous voulez dire.
Les ordinations, pardon. Mais en revanche, ce qui sera très difficile à accepter, c'est tout ce discours anti-œcuménique. Le Concile de Vatican II, c'est le premier concile qui n'a pas jeté d'anathème. Quand on regarde les positions du traditionalisme, il y a quand même un rejet, on envoie en enfer tous ceux qui ne sont pas catholiques. Ça, c'est impensable pour le pape. Absolument pensable. Donc sur ce point-là, si les traditionnalistes ne cèdent pas, là, il n'y aura pas d'entente possible.
Le pape François, et donc, ça sera peut-être parce qu'il vient d'un autre continent, le pape qui va résoudre des tensions inter-européennes, en fait, parce que c'était beaucoup européen, c'est beaucoup français même, comme problématique.
Oui, on peut dire ça, effectivement. Alors après, ça pose la question de sa vision de l'Europe. Moi, j'ai eu des gens que j'ai interviewés qui m'ont dit qu'il ne comprend pas l'Europe. Il ne comprend pas bien la mentalité européenne. Il n'est pas à l'aise, avec les Lumières en particulier. Il y a quelque chose qui passe pas, d'où son souci. Finalement, l'Europe, il y est allé toujours par la périphérie, l'Albanie. Il ne va pas dans les grands pays occidentaux traditionnels. Alors peut-être ça doit-il évoluer sur ce plan.
Le synode sur la famille,
oui.
Est-ce que ça a laissé des traces? Est-ce que ça a été bien compris? Est-ce qu'on ne touche pas les limites de la façon dont le pape peut, j'allais dire, même si c'est un verbe un peu dépréciatif, louvoyer?
Alors moi je ne pense pas, je la trouve très belle cette exhortation apostolique sur la famille, parce que sans renier le dogme, le refus de l'avortement, etc., l'euthanasie, ce qui est mis en avant c'est l'amour, la positivité, ça s'appelle joie de l'amour. Alors ça va gêner beaucoup de gens, c'est vrai, il y a eu une levée de bouclier contre certaines positions, mais moi je pense que ça marque quand même l'ouverture, et en même temps ça reste quand même tout à fait dans la ligne du point de vue des dogmes. Je ne pense pas que ça puisse blesser beaucoup de gens, même si on sait très bien qu'au sein de la curie il y a une levée de bouclier, des gens qui considéraient que ce texte n'était pas dans la ligne, voilà, il y a une vraiment coalition contre lui, mais en morale on aurait du mal quand même à dire qu'il reste quand même assez rigoriste, hein. Faut pas non plus exagérer trop son ouverture, mais il est à l'écoute, voilà, il est à l'écoute des mutations de société. Il voit bien que la famille traditionnelle ne fonctionne plus tout à fait comme par le passé.
Mais on a le sentiment que vous avez des cardinaux qui sont un peu les papes de ceux qui voudraient une vision plus conservatrice. Je pense au cardinal Sarah, par exemple, ou Burke. Le cardinal Sarah, dont Benoît XVI a dit que la liturgie est entre de bonnes mains parce que c'est le cardinal Sarah qui s'en occupait. Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu, alors là c'est tout à fait peut-être excessif, est-ce que maintenant il n'y a pas, comme à Avignon, deux papes en fait? Le pape rêvé de ceux qui voudraient une vision plus conservatrice et qui, numériquement parlant, représente un certain poids vu la désaffection générale des fidèles. Et puis le pape Benoît XVI, qui est le pape médiatique, le pape François, qui est le pape médiatique, le pape des autres en quelque sorte. Il y aura un peu une sorte de diarchie.
Oui, c'est possible, probablement, on peut dire ça. Alors ça va poser beaucoup de problèmes pour le successeur du pape François. Il a 80 ans, donc il ne restera pas très très longtemps. Il le sait, il sait que son pontificat sera court. Donc lui, ce qu'il veut, c'est lancer des processus, voilà, semer, et puis d'autres récolteront.
Ça va être dur pour celui qui va venir après.
Ah oui, je pense que ça sera très difficile.
Parce que même, vous posez une question, à partir du moment où l'humilité devient ostentatoire, est-ce que c'est encore de l'humilité?
Ah oui, ça pose un problème.
Puisqu'il a un souci de l'image très fort. Comment interpréter? Que faire après? Est-ce que...
Sur l'humilité, c'est une bonne question, parce que Benoît XVI était certainement plus humble que l'est le pape François. Mais il sait que l'humilité est une vertu, et donc il essaye de montrer qu'il y a une nécessité de l'humilité. Alors ça, cette question, moi je ne pourrais pas répondre à ça.
Vous n'êtes pas obligé.
Comment fonctionner?
On verra comment les choses se présentent.
D'ailleurs, il aime bien le dire. Hein, il le dit. Le pape, le Dieu, c'est aussi le Dieu des mystères, le Dieu de ce qu'on ne peut pas prévoir. Le pape aime bien répéter cette phrase-là. Donc il a une vision, mais il se méfie d'ailleurs de tout ce qui est dit. Je ne veux pas jouer les devins. Donc tout ce qui est prophétologie, à titre personnel, il s'en méfie.
Merci beaucoup Nicolas Tenaillon d'être venu nous parler de votre dernier essai Dans la tête du pape François, édition Actes Sud. Solin, vous êtes agrégé de philosophie. Merci de nous avoir expliqué toutes les références du pape et puis d'avoir resitué les choses dans leur contexte et dans le cadre de l'actualité de ce jeudi de l'Ascension.
À bientôt. Merci à vous. Merci.